Chapitre 29. La place du marché. Nous avons dit que le môle est le boulevard du temple de Naples. Il mercato est sa place de grève. Autrefois, quand on pendait à Naples, la potence restait dressée en permanence sur la place du marché. Aujourd'hui que Naples est éclairée au gaz, qu'elle est pavée d'asphalte et qu'elle guillotine, on élève et on démonte la manaille pour chaque exécution. L'horrible machine se dresse pendant la nuit qui précède le supplice, en face d'une petite rue par laquelle débouche le condamné et qu'on appelle pour cette raison Vico del Sospiro, la ruelle du soupir. C'est sur cette place que furent exécutés, le 29 octobre 1268, le jeune Conradin et son cousin Frédéric d'Autriche. Les corps des deux jeunes gens restèrent quelque temps en ce lit à l'endroit même de l'exécution, et une petite chapelle s'éleva sur leur tombe. Mais l'impératrice Marguerite arriva du fond de l'Allemagne. Elle apportait des trésors pour racheter à Charles d'Anjou la vie de son fils. Il était trop tard. Son fils était mort. Avec la permission de son meurtrier, elle employa ses trésors à faire bâtir une église. Cette église, c'est celle d'El Carmine. Si l'on n'est pas conduit par un guide, on sera longtemps à trouver cette tombe pour laquelle cependant une église fut bâtie. Sans doute la susceptibilité de Charles l'exila dans le coin où elle se trouve. L'église d'El Carmine fut témoin d'un miracle incontestable et à peu près incontesté. J'ai acheté à Rome un livre italien intitulé « Histoire de la 27e révolte de la très fidèle ville de Naples ». C'est celle de Masaniello. Avec celles qui ont eu lieu depuis 1647 et qu'il faut ajouter aux révoltes antérieures, cela fait un total de 35 révoltes. Ce n'est pas trop mal pour une ville fidèle. Une de ces 35 révoltes eut lieu contre Alphonse d'Aragon. Mais Alphonse d'Aragon n'était pas si bête que d'abandonner Naples si Naples l'abandonnait. Il fit venir des galères de Sicile et de Catalogne et, ayant mis le siège devant Naples, s'en alla établir son camp sur les bords du Cibatus, position de laquelle il commença à canonner sa très fidèle ville révoltée. Or, un des boulets envoyés par lui à ses anciens sujets, se trompant probablement de route, se dirigea vers l'église d'El Carmine, fracassa la coupole, renversa le tabernacle et allait écraser la tête du crucifix de grandeur naturelle, qui déjà avant cette époque était reconnu comme très miraculeux. Le crucifix baissa sa tête sur sa poitrine et le boulet, passant au-dessus de son front, alla faire son trou dans la porte, enlevant seulement la couronne d'épines dont la tête était sainte. Chaque année, le lendemain de Noël, le crucifix est exposé à la vénération des fidèles. C'est sur la place du Mercato qu'éclata la fameuse révolution de Masaniello, devenue si populaire en France depuis la représentation de la muette des Portici. Il est donc presque ridicule à moi de m'étendre sur cette révolution. Mais comme les opéras, en général, n'ont pas la prétention d'être des œuvres historiques, peut-être trouverai-je encore à dire, à propos du héros d'Amalfi, des choses oubliées par mon confrère et ami scribe. Le duc d'Arcos était vice-roi depuis 3 ans, et depuis 3 ans, la ville de Naples avait vu s'augmenter les impôts de telle façon que le gouverneur, ne sachant plus quelle chose imposer, imposa les fruits, qui, étant la principale nourriture des Lazzaroni, avaient toujours eu leur entrée dans la ville de Naples sans payer aucun droit. Aussi cette nouvelle gabelle blessa-t-elle singulièrement le peuple de la très fidèle ville, qui commença de murmurer hautement. Le duc d'Arcos doubla ses gardes, renforça la garnison de tous les châteaux, fit rentrer dans la capitale 3 ou 4 000 hommes éparpillés dans les environs, redoubla de luxe dans ses équipages, dans ses dîners et dans ses bals, et laissa le peuple murmurer. On approchait du mois de juillet, mois pendant lequel on célèbre à Naples avec une dévotion et une pompe toute particulière la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il était d'habitude à cette époque et à propos de cette fête de construire un fort au milieu de la place du marché. Ce fort, sans doute, en mémoire des différents assauts que dut subir la montagne sainte, était défendu par une garnison chrétienne et attaqué par une armée sarrasine. Les chrétiens étaient vêtus de caleçons de toile et avaient la tête couverte d'un bonnet rouge, c'est-à-dire que les chrétiens portaient tout bonnement et tout simplement le costume des pêcheurs napolitains, qui, en 1647, n'avait pas encore adopté la chemise. Les Sarrasins étaient habillés à la turque avec des pantalons larges, des vestes de soie et des turbans démesurés. La dépense des costumes infidèles avait été faite, on ne se rappelait plus par qui. On les entretenait avec le plus grand soin, et les combattants se les léguaient de génération en génération. Les armes des assiégeants et des assiégés étaient de longues cannes en roseau, avec lesquelles ils frappaient à tour de bras sans se faire grand mal, et que leur fournissaient en abondance les terres marécageuses des environs de Naples. Dès le mois de juin, il était d'habitude que ceux qui devaient prendre part à ce combat se rassemblassent pour se discipliner. Alors, amis et ennemis, chrétiens et sarrasins, manœuvraient ensemble et dans la plus parfaite intelligence. Puis, ils rentraient dans la ville, marchant au pas, portant leurs roseaux comme on porte des fusils, et alignés comme des troupes régulières. Le chef des chrétiens qui devait défendre le fort du marché, à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel de l'an de grâce 1647, était un jeune homme de 24 ans, fils d'un pauvre pêcheur d'Amalfi, et pêcheur lui-même à Naples. On le nommait Thomas Agnello, et par abréviation, Masaniello. Quelques jours auparavant, le jeune pêcheur avait eu gravement à se plaindre de la gabelle. Sa femme, qu'il avait épousée à l'âge de 19 ans, et qu'il aimait beaucoup, en essayant d'introduire à Naples 2 ou 3 livres de farine cachée dans un bât, avait été surprise par les commis de l'octroi, mise en prison et condamnée à y rester jusqu'à ce que son mari eût payé une somme de 100 ducats, c'est-à-dire 450 francs de notre monnaie. C'était, selon toute probabilité, plus que son mari n'aurait pu en amasser en travaillant toute sa vie. La haine que Masaniello avait vouée aux commis après l'arrestation de sa femme s'étendit, le jugement rendu, des commis au gouvernement. Cette haine était bien connue, car Masaniello disait hautement par les rues de Naples qu'il se vengerait d'une manière ou de l'autre. Et comme le peuple, de son côté, était mécontent, il dut sans doute à ces manifestations hostiles d'être nommé le chef de la plus importante des 2 troupes. Le nom de l'autre chef est resté inconnu. Le premier acte d'hostilité de Masaniello contre l'autorité du vice-roi fut une étrange gaminerie. Comme il passait avec toute sa troupe devant le palais du gouvernement, sur le balcon duquel le duc et la duchesse d'Arcos avaient réuni toute l'aristocratie de la ville, Masaniello, comme pour faire honneur à tous ces riches seigneurs et à toutes ces belles dames qui s'étaient dérangées pour lui, ordonna à sa troupe de s'arrêter, la fit ranger sur une seule ligne devant le palais, lui fit faire demi-tour à gauche, afin que chaque soldat tournât le dos au balcon, fit poser toutes les cannes à terre, puis ordonna de les ramasser. Le double mouvement fut exécuté avec un ensemble remarquable et d'une suprême originalité. Les dames jetèrent les hauts cris. Les seigneurs parlèrent d'aller châtier les insolents qui s'étaient livrés à cette impertinente facétie avec un imperturbable sérieux. Mais comme la troupe de Masaniello se composait de 200 gaillards choisis parmi les plus vigoureux habitués du môle, la chose se passa en conversation, et Masaniello et ses acolytes rentrèrent chez eux sans être inquiétés. Le dimanche suivant, le jour destiné à une autre revue, les 2 chefs se rendirent dès le matin sur la place du marché avec leurs troupes, afin de renouveler les manœuvres des dimanches précédents. C'était justement à l'heure où les paysans des environs de Naples apportaient leurs fruits au marché. Pendant que les 2 troupes s'exerçaient à qui mieux, une dispute s'éleva à propos d'un panier de figues entre un jardinier de Portici et un bourgeois de Naples. Il s'agissait du droit nouvellement imposé que ni l'un ni l'autre ne voulait payer. Le vendeur disant que le droit devait être supporté par l'acquéreur et l'acquéreur disant au contraire que l'impôt regardait le vendeur. Comme cette dispute fit quelque bruit, le peuple, rassemblé pour voir manœuvrer les Turcs et les chrétiens, accourut à l'endroit où la discussion avait lieu et fit cercle autour des discutants. Tirés de leurs préoccupations par le bruit qui commençait à éclater, quelques soldats des 2 troupes abandonnèrent leur rang pour aller voir ce qui se passait. Comme la chose prenait de l'importance, ils firent bientôt signe à leurs camarades d'accourir. Ceux-ci ne se firent pas répéter l'invitation 2 fois. Le cercle s'agrandit alors et commença de former un rassemblement formidable. En ce moment, le magistrat chargé de la police, et qu'on nommait l'élu du peuple, arriva et interpellé à la fois par les bourgeois et les jardiniers pour savoir à qui appartenait de payer le droit, il répondit que le droit était à la charge des jardiniers. À peine cette décision était-elle rendue, que les jardiniers renversèrent à terre leurs paniers pleins de fruits, déclarent qu'ils aiment mieux les donner pour rien au peuple que de payer cette odieuse imposition. Aussitôt le peuple se précipite, se heurte, se presse pour piller ses fruits, lorsque tout à coup un homme s'élance au milieu de la foule, se fait jour, pénètre jusqu'au centre du rassemblement, impose silence à la multitude qui se tait à sa voix, et là déclare au magistrat qu'à partir de 7 heures, le peuple napolitain est décidé à ne plus payer d'impôts. Le magistrat parle de moyens coercitifs, menace de faire venir des soldats. Le jeune homme se baisse, ramasse une poignée de figues, et toute mêlée de poussière qu'elle est, la jette au visage du magistrat, qui se retire, hué par la multitude. Tandis que le jeune homme, arrêtant les 2 troupes prêtes à poursuivre le fugitif, se met à leur tête, fait ses dispositions avec la rapidité et l'énergie d'un général consommé, les distribue en 4 troupes, ordonne aux 3 premières de se répandre dans la ville, d'anéantir toutes les maisons de péage, de brûler tous les registres des gabelles et d'annoncer l'abolition de tous les impôts. Tandis qu'à la tête de la 4e, grossie de la plus grande partie des assistants, il marchera droit au palais du vice-roi. Les 4 troupes partirent au cri de « Vive Masaniello !» C'était Masaniello, ce jeune homme qui, en un instant, avait refoulé l'autorité comme un tribun, avait divisé son armée comme un général et avait commandé au peuple comme un dictateur. Le duc d'Arcos s'était déjà informé de ce qui se passait. Le magistrat s'était réfugié près de lui et lui avait tout raconté. Masaniello et sa troupe trouvèrent donc le palais fermé. Le premier mouvement du peuple fut de briser les portes. Mais Masaniello voulut procéder avec une certaine légalité. En conséquence, il allait faire sommer le vice-roi de paraître ou d'envoyer quelqu'un en son nom, lorsque la fenêtre du balcon s'ouvrit et que le magistrat parut, annonçant que l'impôt sur les fruits venait d'être levé. Mais ce n'était déjà plus assez. La multitude, en reconnaissant sa force et en voyant qu'on pouvait lui céder, était devenue exigeante. Elle demanda à grands cris l'abolition de l'impôt sur la farine. Le magistrat annonça qu'il allait chercher une réponse, rentra dans le palais, mais ne reparut pas. Masaniello haussa la voix, et de toute la force de ses poumons annonça qu'il donnait au vice-roi 10 minutes pour se décider. Ces 10 minutes écoulées, aucune réponse n'ayant été faite, Masaniello, d'un geste d'empereur, étendit la main. À l'instant même, la porte fut enfoncée et la multitude se rua dans le palais, criant « À bas les impôts !» brisant les glaces et jetant les meubles par les fenêtres. Mais, arrivé à la salle du dais, toute cette foule, sur un mot de Masaniello, s'arrêta devant la portrait du roi, se découvrit, salua, tandis que Masaniello protestait à haute voix que c'était non point contre la personne du souverain qu'il se révoltait, mais contre le mauvais gouvernement de ses ministres. Pendant ce temps, le duc d'Arcos s'était sauvé par un escalier dérobé. Il avait sauté dans une voiture et s'éloignait au grand galop dans la direction du château neuf. Mais bientôt reconnu par la populace, il fut poursuivi et allait être atteint lorsque de la portière de la voiture s'échappèrent des poignées de ducats. La foule se rua sur cette pluie d'or et laissa échapper le duc, qui, trouvant le pont du château neuf levé, fut forcé de se réfugier dans un couvent de Minimes. De là, il écrivit 2 ordonnances, l'une qui abolissait tous les impôts, quels qu'ils fussent, l'autre qui accordait à Masaniello une pension de 6 000 ducats s'il voulait contenir le peuple et le faire rentrer dans son devoir. Masaniello reçoit ces 2 ordonnances, les lit toutes 2 au peuple, du haut du balcon du duc d'Arcos, déchire celle qui lui est personnelle et en jette les morceaux à la multitude, en criant que, pour tout l'or du royaume, il ne trahira pas ses compagnons. Dès ce moment, pour la multitude, Masaniello n'est plus un chef. Masaniello n'est plus un roi. Masaniello est un dieu. Alors c'est lui, à son tour, qui envoie une députation au duc d'Arcos. Cette députation est chargée de lui dire que la révolte n'a point eu lieu contre le roi, mais contre les impôts, qu'il n'a rien à craindre s'il tient les promesses faites, et qu'il peut revenir en toute sécurité à son palais. Chaque membre de la députation répond sur sa vie de la vie du duc d'Arcos. Le vice-roi accepte la protection qui lui est offerte, mais, au lieu de rentrer dans son palais dévasté, il demande à se retirer au fort Saint-Elme. La proposition est transmise à Masaniello, qui réfléchit quelques secondes et y adhère en souriant. Le duc d'Arcos se retire au château Saint-Elme. Masaniello est seul maître de la ville. Tout cela a duré 5 heures. En 5 heures, tout le pouvoir espagnol a été anéanti, toutes les prérogatives du vice-roi détruites. En 5 heures, un Lazzarone en est venu à traiter d'égal à égal avec le représentant de Philippe IV, qui le fait roi à sa place en lui abandonnant la ville. Et cette étrange révolution s'est accomplie sans qu'une goutte de sang ait été versée. Mais là commençait pour Masaniello une tâche immense. Le pêcheur sans éducation aucune, le Lazzarone qui ne savait ni lire ni écrire, le marchand de poissons qui n'avait jamais manié que ses rames et tiré que son filet, allait être chargé de tous les détails d'un grand royaume. Il allait publier des ordonnances, allait rendre la justice, il allait organiser une armée, il allait combattre à sa tête. Rien de tout cela n'effraya Masaniello. Il étendit son regard calme sur lui et autour de lui, puis aussitôt il se mit à l'œuvre. Le premier usage qu'il fit de son autorité fut d'ordonner la mise en liberté des prisonniers qui n'étaient détenus que pour contrebande ou pour amende imposée par la gabelle. Au nombre de ces derniers, on se le rappelle, était la propre femme du dictateur. Ces prisonniers délivrés vinrent le joindre immédiatement au palais du vice-roi. Alors, accompagné par eux, escorté par sa troupe, il se rendit sur la place du marché, fit publier à son de trompe l'abolition des impôts, et l'ordre à tous les hommes de Naples, depuis 18 jusqu'à 50 ans, de prendre les armes et de se réunir sur la place. Cette ordonnance fut dictée par Masaniello et écrite par un écrivain public. Et Masaniello, qui, comme nous l'avons dit, ne savait pas signer, appliqua au-dessous de la dernière ligne, en guise de cachet, l'amulette qu'il portait au cou, et qui de ce moment devint le saint de ce nouveau souverain. Puis, comme sa première milice était déjà divisée en 4 groupes, il donna aux 3 groupes qui n'étaient pas sous son commandement des chefs pour se diriger. Ces chefs étaient 3 Lazzaroni de ses amis, et qui se nommaient Cataneo, Renna et Ardizone. Ils furent chargés de se rendre chacun dans un quartier opposé, et de veiller à la sûreté de la ville. Les 3 troupes se rendirent à leur poste, et Masaniello demeura sur la place du marché à la tête de la sienne, attendant le résultat de l'ordre qu'il avait donné pour la lever en masse. L'exécution de cet ordre ne se fit pas attendre. Au bout de 2 heures, 130 000 hommes armés entouraient Masaniello. Chacun s'était rendu à l'appel, sans discuter un instant le droit de celui qui les appelait. Seulement la Corporation des peintres avait demandé à s'organiser en compagnie particulière, sous le nom de la Compagnie de la Mort. Et comme cette demande avait été faite à Masaniello par un ancien Lazzarone qui l'aimait beaucoup, cette demande fut accordée. Ce Lazzarone, ami de Masaniello, qui s'était chargé de la négociation, était Salvador Rosa. Alors Masaniello pensa que la première chose à faire dans un bon gouvernement était de vider les prisons en renvoyant les innocents et en punissant les coupables. Le chef des révoltés s'était fait général. Le général venait de se faire législateur, le législateur se fit juge. Masaniello fit dresser une espèce d'échafaud de bois, s'assit dessus en caleçon et en chemise, et appuyant sa main droite sur une épée nue, il fit comparaître tour à tour devant lui tous les prisonniers. Pendant tout le reste de la journée, il jugea. Ceux qu'il proclamait innocents étaient mis à l'instant même en liberté. Ceux qu'il reconnaissait coupables étaient à l'instant même exécutés. Et tel était le coup d'œil de cet homme que, quoique son jugement n'eût, pour la plupart du temps, d'autre base que l'inspection rapide et profonde de la physionomie de l'accusé, il y avait conviction entière parmi les assistants que le juge improvisé n'avait condamné aucun innocent et n'avait laissé échapper aucun coupable. Seulement il n'y avait ni différence entre les jugements, ni progression entre les supplices. Voleurs, fausseurs et assassins furent également condamnés à mort. Cela ressemblait fort aux lois de Dragon. Mais Masaniello avait compris que le temps pressait et il n'avait pas pris le loisir d'en faire d'autres. Le lendemain au matin, tout était fini. La prison de Naples était vide et tous les jugements exécutés. Le développement que prenait la révolte, ou plutôt le génie de celui qui la dirigeait, épouvanta le vice-roi. Il envoya le duc de Matalone à Masaniello pour lui demander quel était le but qu'il se proposait et quelles étaient les conditions auxquelles la ville pouvait rentrer sous le pouvoir de son souverain. Masaniello nia que la ville fût révoltée contre Philippe IV et, en preuve de cette assertion, il montra à l'ambassadeur tous les coins de rue ornés de portraits du roi d'Espagne, que pour plus grand honneur, on avait abrité sous des dais. Quant aux conditions qu'il lui plaisait d'imposer, elles se bornaient à une seule. C'était la remise au peuple de l'original de l'ordonnance de Charles Quint, laquelle, à partir du jour de sa date, excluait pour l'avenir toute imposition nouvelle. Le vice-roi parut se rendre, fit fabriquer un faux titre et l'envoya à Masaniello. Mais Masaniello, soupçonnant quelque trahison, fit venir des experts et leur remit l'ordonnance. Ceux-ci déclarèrent que c'était une copie et non l'original. Alors Masaniello descendit de son échafaud, marcha droit au duc de Matalone, lui reprocha sa supercherie, puis, l'ayant arraché de son cheval et fait tomber à terre, il lui appliqua son pied nu sur le visage, après quoi il remonta sur son trône et ordonna que le duc fût conduit en prison. La nuit suivante, le duc séduisit le geôlier à force d'or et s'échappa. Le vice-roi vit alors à quel homme il avait affaire, et ne pouvant le tromper, il voulut l'abattre. En conséquence, il donna ordre à toutes les troupes qui se trouvaient au nord, à Capoue et à Gaète, au midi, à Salerne et dans ses environs, de marcher sur Naples. Masaniello apprit cet ordre, divisa son armée en trois corps, envoya ses lieutenants avec un de ses corps au-devant des troupes qui venaient de Salerne, marcha avec l'autre au-devant des troupes qui venaient de Capoue, et laissa le troisième corps sous le commandement d'Ardisone pour garder Naples. On croit que ce fut pendant cette expédition, qui éloignait momentanément Masaniello de Naples, que les premières propositions de trahison furent faites à Ardisone, avec autorisation de les communiquer à ses deux collègues, Catanco et Renna. Masaniello battit les troupes du vice-roi, tua 1000 hommes et fit 3000 prisonniers qu'il ramena en grande pompe à Naples, et auxquels il donna pleine et entière liberté sur la place du marché. Ces 3000 hommes prirent à l'instant place parmi les milices napolitaines en criant « Vive Masaniello !» De leur côté, Cattaneo et Renna avaient repoussé les troupes qui leur étaient opposées. La compagnie de la mort, surtout, qui faisait partie de leur corps d'armée, avait fait merveille. Le duc d'Arcos n'avait plus de ressources. Il avait essayé de la ruse et Masaniello avait découvert la trahison. Il avait essayé de la force et Masaniello l'avait battu. Il résolut donc de traiter directement avec lui, se réservant mentalement de le trahir ou de le briser à la première occasion qui se présenterait. Cette fois, pour donner plus de poids à la négociation, il choisit pour négociateur le cardinal Filomarino. Le peuple, qui se défiait du prélat, voulut un instant s'opposer à cette nouvelle entrevue. Mais Masaniello répondit du cardinal, et l'entrevue eut lieu. Masaniello venait de donner l'ordre de brûler 36 palais appartenant aux 36 seigneurs les plus éminents de la noblesse espagnole et napolitaine. Le cardinal Filomarino supplia Masaniello de révoquer cet ordre, et Masaniello le révoqua. Comme Masaniello quittait le prélat et se rendait au lieu de la conférence à la place du marché, on tira sur lui, presque à bout portant, 5 coups d'arquebuse dont aucun ne le toucha. Son jour n'était pas encore venu. Les meurtriers furent mis en pièces par le peuple et avouèrent en mourant qu'ils avaient été payés par le duc de Matalone, lequel voulait se venger des mauvais traitements qu'il avait reçus de Masaniello. Le vice-roi désavoua l'assassinat. Le cardinal engagea sa parole que le duc d'Arcos ignorait cette trahison, et les négociations reprirent leur cours. Cependant, la police n'avait jamais été mieux faite, et depuis 4 jours que commandait Masaniello, pas un vol n'avait été commis dans toute la ville de Naples. Le jour même où Masaniello avait failli être assassiné, Le cardinal revint lui dire, de la part du vice-roi, que celui-ci désirait s'entretenir en tête-à-tête avec lui des affaires de l'État, et reviendrait le lendemain avec toute sa cour au palais, afin de l'y recevoir. Masaniello, qui se défiait de ses avances, voulait refuser, mais le cardinal insista tellement que force lui fut d'accepter. Alors une nouvelle discussion, plus tenace que la première, s'engagea encore. Masaniello, qui ne se reconnaissait pas pour autre chose que pour un pêcheur, voulait se rendre au palais en costume de pêcheur, c'est-à-dire les bras et les jambes nus, et vêtu seulement de son caleçon, de sa chemise et de son bonnet phrygien. Mais le cardinal lui répéta tant de fois qu'un pareil costume était inconvenant pour un homme qui allait paraître au milieu d'une cour si brillante, et pour y traiter des affaires d'une si haute importance, que Masaniello céda encore et permit en soupirant que le vice-roi lui envoya le costume qu'il devait revêtir dans ses grandes journées. Le même soir, il reçut un costume complet de drap d'argent, avec un château garni, d'une plume et une épée à garde d'or. Il accepta le costume, mais quant à l'épée, il la refusa, n'en voulant point d'autre que celle qui lui avait servi jusque-là, de sceptre et de main de justice. Cette nuit, Masaniello dormit mal, et dit le lendemain matin que son patron lui était apparu en songe et lui avait défendu d'aller à cette entrevue. Mais le cardinal Filomarino lui fit observer que sa parole était engagée, que le vice-roi l'attendait au palais, que son cheval était en bas, et qu'il n'y avait pas moyen de manquer à son engagement sans manquer à l'honneur. Masaniello revêtit son riche costume, monta à cheval et s'achemina vers le palais du vice-roi.